care about you. Are you racing or watching?
La dispute, l'été. Cette semaine, le cinéma. Dernière dispute d'été, dernière dispute allégée dans sa forme pour s'enrichir sur le fond avec trois critiques, trois sujets pour avoir le temps d'avancer nos arguments, pour pouvoir enrichir notre débat. Ce soir, Corinne Rondeau, Thierry Chaise et Antoine Guillot sont autour de moi dans ce studio pour notre deuxième émission estivale consacrée au cinéma après celle du 25 juillet. À notre sommaire, Dipane de Jacques Audiard, Les Mille et Une Nuits, volume 3, L'Enchanté de Miguel Gomez, Les Secrets des Autres de Patrick Wang. Et nous ouvrons cette dispute avec le film qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes 2015, Dipane de Jacques Audiard, film très diversement apprécié par la critique. Nous verrons ce qu'il en est ici ce soir, dans ce studio, et nous verrons aussi ce qu'il en sera pour le public, après que Jacques Audiard ait enchaîné plusieurs succès publics avec Un prophète, puis De rouille et d'os, deux films qui figuraient également en compétition à Cannes, le premier ayant remporté le Grand Prix du jury avant de rafler 9 Césars. De rouille et d'os, lui, a accumulé 2 millions de spectateurs en salle, ce qui n'est pas tout à fait rien. Avec Dipane, Audiard fait le pari d'un casting d'inconnus pour un film qui parle essentiellement tamoul, puisqu'on va suivre l'arrivée en France d'un ancien soldat sri-lankais, une jeune femme et une petite fille.
നടരാജൻ കീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോടെ 6 മാസം മുതൽ സെറ്റുപോച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിയാൾ
സാ വസ് ബിയൻ സി അവക് ടോ മാരി ടോ ഹെറോസ് ഇസി
അവന്റെ പിള്ളല്ലേ അതെന്റെ മനസ്സിനല്ലേ
J'ai rien à gagner à foutre la merde.
விளையாடப்பா இஞ்ச ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேணும்
Dipane sur les écrans depuis mercredi dernier. Thierry Chaise, petit début de carrière en salle.
Alors voilà, d'habitude à Paris, en tout cas on a les chiffres Paris uniquement pour l'instant, les précédents films, 20 000 entrées le premier jour sur Paris pour Un prophète, presque 50 000 pour De rouille et d'os, et là 14 568.
Peu,
mais beaucoup quand on sait que les protagonistes ne sont pas très connus. Voilà, donc c'est...
Enfin, c'est Palme d'Or quand même.
Voilà. Mais c'est mieux que Winterslip, par exemple.
Oui, d'accord. On peut comparer ce qui est comparé. Winterslip avait commencé sa carrière, mais encore plus au creux de l'été.
Totalement,
si je peux dire,
hein. Exactement.
Donc, début août ou quelque chose comme ça.
Ouais,
je vais
essayer. Début août.
Commencez donc, Thierry, votre regard. Je ne sais pas si vous avez revu le film depuis Cannes ou est-ce que vous êtes resté sur votre vision cannoise.
Moi, je suis resté sur ma vision cannoise qui était plutôt positive avec quelques regrets. Mais plutôt positive, je sais qu'il y a eu une vraie bataille cannoise. C'est étonnant parce que, avec Un prophète, je dirais que Jacques Audiard avait réuni à peu près tout le monde. Et depuis, on sent que De rouille et d'os avait déjà été accueilli plus moyennement. Et là, c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a des gens qui sont extrêmement contre le film, avant même qu'il ait la palme, parce que
oui,
voilà, c'est pas juste voilà le choix de la palme, c'est que bon, moi ce que j'aime dans ce film-là, c'est justement le fait que le film change Je pense même quasiment au scénario qu'il avait écrit. Le film est différent de ce qu'il envisageait de faire au départ. On peut croire que c'est un film sur un migrant qui fuit donc en effet une dictature. Son monde s'est effondré. Au Sri Lanka, il ne peut plus rester. Il faut fuir, il faut partir. L'actualité nous le montre encore plus violemment que ce qui se passe dans le film. Donc, on peut penser que c'est ça. Et finalement, je trouve que ça va être un film sur une famille recomposée. Parce qu'il ne fuit pas seul. Il fuit avec une femme et un enfant qui ne sont pas
sa femme ni son enfant.
Et que finalement, il va reconstruire cette famille. Ça va l'aider à se reconstruire. Dit comme ça peut paraître un petit peu simpliste et simplé. Et je trouve que dans sa mise en scène, il accompagne ça de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a au départ une mise en scène que je trouve assez peu présente et tout ça. Au fur et à mesure du film, bien ce film qui va devenir d'un film de migrants un film de famille, il va devenir un film aussi d'action, de manière presque comme un vigilant movie, je dirais, et presque assez étonnante et tout ça. Et la mise en scène, au moment où lui, ce héros qui essayait de se montrer de moins en moins, qui essayait d'être le plus discret possible, va devoir se révolter. La mise en scène d'Audier accompagne ça et devient très visible et devient une mise en scène, oui, de film d'action pure. Moi, ça m'a plu. Les regrets que j'ai, c'est sur son épilogue.
On garde vos regrets pour tout à l'heure.
On y reviendra tout à l'heure. Si le film fait 2h10, jusqu'à 2h, j'étais conquis.
D'accord, bon, on reviendra sur les 10 dernières minutes sans en dire trop, que les auditeurs et auditrices puissent aller voir le film sans trop en savoir. Alors, ce que vous venez de décrire comme étant ce qui vous a plu, peut-être ce qui a déplu Antoine Guillot, allez savoir. Antoine Guillot sur Dipan.
C'est un peu compliqué parce que c'est un film qui me plaisait beaucoup a priori, même si j'ai jamais tellement goûté le cinéma de Jacques Audiard. J'avais aimé Un prophète je trouvais justement qu'il parvenait à allier ce qu'il faisait de mieux et à éviter ce qu'il faisait de moins bien. Là, c'est presque un peu le contraire. C'est-à-dire, le cinéma de Jacques Audiard en général, c'est un cinéma un peu de la soustraction, c'est quelqu'un qui affectionne beaucoup le gros plan, à tel point que, et c'était très frappant dans ses premiers films, on peut perdre de la compréhension de ce qui se passe à cause de cette manière de filmer au plus près des personnages, des objets, etc. Et le film procède de la même manière par la soustraction. C'est-à-dire que c'était présenté un peu comme un mélange des Chiens de paille de Peckinpah dont il voulait faire le remake, ou comment la violence ressurgit auprès de quelqu'un qui voudrait ne pas l'utiliser pour pouvoir survivre, et les Lettres persanes de Montesquieu de l'autre, c'est-à-dire donner une vision de la France par un regard étranger. Donc là, on va prendre un Sri Lankais, quelqu'un qui ne parle pas français, qui découvre cette ville, cette vie occidentale, et qui va avoir un regard un peu exotique sur ce qui nous semble très quotidien. Donc pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant, en plus le parti pris de production qui a été aidé par les succès en salle de Jacques Audiard, de se dire je vais faire un film, parler en tamoul la plupart du temps, avec des personnages, personne n'est connu, etc. Donc voilà, sur le papier, très bien, allons-y. Le problème, c'est que la soustraction s'opère sans arrêt dans ce film encore. Comme le disait Thierry Chaise, les histoires de migrants ne l'intéressent pas, il le revendique, c'est-à-dire qu'il va juste montrer ce qui est nécessaire pour comprendre que c'est quelqu'un qui vient de la guerre, qui va arriver en France, obtenir très facilement et de manière très rapide son statut de réfugié. J'espère que ça va se passer pareil pour toutes les personnes qui viennent le demander en ce moment, mais c'est pas ce qui l'intéresse, pourquoi pas. Bon, il va débouler dans une cité qui est un peu la même qu'on voit dans Zone Interdite ou chez Fox News.
Zone Interdite, c'était Fox News, Antoine.
Bah absolument, il faut connaître tous ces registres d'images
et cette
manière caricaturale de représenter le monde. Donc il va montrer une cité, une zone de non-droit absolument improbable, où on ne voit jamais un policier, où les dealers peuvent barricader les entrées à la cité, faire du filtrage comme ça, parce que de toute façon, ils sont chez eux. Mais là encore, Audiard dit « je ne veux pas faire un film sur les cités, je n'avais pas envie de filmer des képis, je n'avais pas... pour moi, la cité, c'est un décor, j'ai le droit de faire ça comme décor. » Bon, pourquoi pas, alors reprenons. Mais le problème, c'est qu'en soustrayant autant de choses, on n'est pas dans les purs, on est dans la caricature. C'est-à-dire que quand on veut enlever la complexité du réel, on n'en donne qu'un aspect comme ça, aussi cliché que les chaînes télé dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il veut raconter? Il veut raconter, à mon avis, non pas tant l'histoire de la construction d'une famille, mais le thème audiardien éternel, c'est comment est-ce qu'on est un homme, comment est-ce qu'on est un mec, comment est-ce qu'on n'est pas une pauvre chose incapable de défendre justement les siens ou de s'imposer face aux méchants. Et ça, c'est toujours le virilisme hollywoodien. La seule façon de le faire, c'est par la violence. C'est exactement ce que raconte le film.
Qui ont fait des carrières entières là-dessus et qui sont dans votre panthéon, j'imagine.
Oui, mais pas exactement sur le même principe et surtout pas dans la même manière de le raconter.
On reviendra vers vous, Antoine. Corinne Rondeau sur Dipan.
Alors moi, je suis extrêmement déçue par ce film. Peut-être même en colère. Peut-être d'ailleurs à cause de ce que vient de dire Antoine, à savoir qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire, si les migrants, ça ne l'intéresse pas, si les cités, ça ne l'intéresse pas, et si finalement, il partait du film de Peckinpah pour en faire...
Les chiens de paille. Les chiens de paille. Vous l'avez dit au départ.
Oui, mais pour ne pas non plus le faire, d'une certaine manière. Oui. Donc après un court moment au Sri Lanka, où il évacue très vite ces trois personnes qui se retrouvent, un passeport, et puis on part, on se retrouve en France et pas en Grande-Bretagne. Et effectivement, j'ai trouvé ce film d'une platitude avec ce qu'on ne connaît pas dans le cinéma d'Audia, c'est-à-dire une retenue. Il n'a pas la nervosité d'habitude, c'est un film sans rythme, absolument. Alors évidemment, c'est Sri Lankais, c'est étonnant d'en voir sur des écrans de cinéma, donc c'est une curiosité à laquelle on s'accorde très facilement. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il fait le parcours des migrants, il fait aussi l'assimilation selon l'opinion française, mange avec une fourchette et pas avec tes doigts, les femmes ici sont voilées, tu devrais mettre un voile, c'est pas ma religion, oui mais fais-le quand même. Donc pendant à peu près une heure, ils apprennent le français, quoi, pour comprendre ce qui se passe. De l'autre côté, le même opinion de ces cités. Alors, il y a des jeunes, la racaille, les contrats, la drogue. Il y a des heures où on peut passer, des heures où on ne peut pas passer, évidemment. Et donc, on se dit, bon, quand on connaît le père Audia, il va falloir que ça pète à un moment donné. Donc, vous êtes, dès le début, un quart d'heure, 20 minutes, 1h10, vous dites, bon, alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, évidemment, il y a quand même un jeu sur l'espace qui se joue dans la cité, qui est pas inintéressant, je dois dire, cette manière dont il se balade dans cette cité, d'un bâtiment à un autre, puisqu'en fait, le gardien Sri Lankais se trouve au rez-de-chaussée, c'est le gardien, et il a pignon sur rue, on va dire, face au bâtiment où se trouve un jeune dealer qui est sorti de prison, et pour laquelle l'épouse du gardien va faire des ménages pour le père, et voilà. Donc il y a une sorte de relations qui s'instaurent peu à peu, mais on se dit mais pourquoi? Et tout le film est construit sur des rapports, des relations entre les individus pour savoir que ça va amener le plan dans 10 minutes. On va avoir ça. S'il joue ça, cet endroit-là, c'est que peut-être elle va lui demander un truc. Et on se dit, bon, on n'en peut plus. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans cette caméra et l'espace, puisque là, il a ouvert quand même l'espace, beaucoup. Comment faire un cinéma quand on n'est pas dans la nervosité, dans le rythme? Filmer des espaces. Et alors, ce qui est intéressant, c'est cette fenêtre. Parce qu'il voit l'extérieur. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle dit, on a l'impression qu'on se trouve au cinéma. Et donc, en fait, il est en train de dire, je suis en train tout le temps d'évoquer la frontière entre l'image et le réel. Je veux pas rentrer dans ce réel jusqu'à, effectivement, cette ligne, cette frontière que va tracer le gardien Sri Lankais pour dire, vous passez pas la zone.
Vous racontez pas tout, Corinne.
Non, je passe pas. Mais en fait, il est sorti en même temps, je ne dévoile rien de ce.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de spectateurs encore pour l'instant.
Bah, oui, bon.
Il y en a plus que d'autres.
Mais c'était l'élément positif du film dont je parlais. Non mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui essaie de travailler la frontière. C'est ça qui était intéressant et j'attendais quelque chose qui
n'est pas venu. Bon, on va bientôt arriver aux 2 heures de Thierry Chaise, mais je suis aussi contrasté, moi, plutôt comme Thierry Chaise, j'ai l'impression parce que ce que j'aime alors dans le cinéma d'Audiard, moi, c'est le théâtre, si je puis dire, et qu'après avoir fait plutôt des tragédies, là, c'est une épopée. Donc, je pense que l'espace, il est là dans cet esprit-là, et même s'il dit que le Sri Lanka, c'est par hasard, etc. Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui vient de l'épique, qui vient d'un Orient comme ça. Alors, bon, presque de l'orientalisme, ça peut être aussi vu comme un défaut. Mais je partage quand même l'avis d'Antoine sur... Alors, j'aurais pas dit caricature, j'aurais dit stéréotype. Et c'est ce qui me pose problème, c'est que ces héros tamouls, pour moi, ils ont du mal à...
Ils
sont pas incarnés, quoi. Alors que vous parliez du jeune dealer, c'est Brahim, Vincent Rothiers, qui existe assez immédiatement. Enfin, pour moi, tel que je l'ai vu, je trouvais qu'il existe dès son apparition à l'écran. Alors peut-être parce que c'est un personnage plus familier du monde d'Audiard et du cinéma, de notre cinéma, si je puis dire. Mais du coup, alors, est-ce qu'on pourrait dire que ce qu'il nous montre aussi, c'est l'irréductible étrangeté bon, de ces tamouls j'essaye d'interpréter, oui, mais pourquoi parce que de proposer à ce point des stéréotypes, je me dis il y a quand même quelque chose derrière.
Ben, pour revenir sur ce que vous évoquez, Arnaud, ça l'intéresse pas les migrants, mais enfin c'est un tigre tamoul.
Oui, mais est-ce qu'on est obligé de croire ce que disent les cinéastes? Je suis pas sûr.
Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même où vous prenez des migrants dans une situation qui est, voilà, le migrant pour faire l'histoire des gens qui viennent d'ailleurs, mais quand il l'inscrit dans une histoire politique, nationaliste et terroriste, j'ai envie de dire, si Monsieur Audiard voulait faire des films sur le bonheur avec des terroristes, arrêtez, ou vous faites des films politiques, ou vous arrêtez de faire du cinéma. Parce que moi, je suis en colère contre Audiard, plus que d'avoir été déçu, pour tout vous le dire. Donc, passer du terroriste au stéréotype, je trouve ça de l'escroquerie de la part d'Audiard.
Antoine Guillaume,
qui est terroriste dans
Les tigres tamouls, c'est quoi, à votre avis?
C'est un mouvement de guérilla.
Nationalistes qui ont fait des attentats, etc. etc.
Bon, là, voilà. On va rentrer dans un autre
débat. Elle lui donne une gifle quand elle lui dit pourquoi tu vas se battre contre les mêmes que tu étais là-bas. Donc, c'est dit en plus dans le film.
Voilà. Mais moi, c'est aussi.
Et la fin du film est problématique.
J'ai un problème d'une autre manière. C'est-à-dire que, pour retourner sur ce que je disais sur l'obsession viriliste de Audiard, c'est un peu une manière aussi de nous dire, regardez, ces gens que vous voyez dans les cuisines, ces gens que vous voyez vendre des gadgets à la noix, comme on le voit dans le film avec ses oreilles de Mickey qui clignotent. Attention, parce que c'est peut-être aussi des mecs, des vrais, mais aussi des barbares. Parce que sa manière de montrer quand il va décider d'agir, puisqu'enfin, quand même, il faut montrer qu'il en a, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les armes du barbare, c'est-à-dire la machette. Voilà. On se demande d'ailleurs où il l'a trouvé, sa machette, mais il revient avec ses armes de guerrier de la jungle, et là, c'est le principe, c'est même pas le principe Rambo, le super soldat, qu'il faut pas trop le chercher, parce qu'à la fin, sinon, la violence va ressurgir. C'est quand même l'étrangeté totale, pour le coup, et là, politiquement, pour le coup, c'est là que ça me gêne le plus.
Alors,
sans traiter les tamouls de terroristes.
Non, il y a une histoire. Voilà.
Mais d'où je partage. Moi, je suis plus convaincu par le reste du film parce que j'aime bien justement ce ton de la tonse dont vous parliez, qui me gêne pas. Je suis plus gêné par la fin parce que là, en effet, sans la raconter, d'un seul coup,
c'est une explosion de violence quand même.
On va sur le terrain politique totalement, c'est-à-dire qu'en choisissant un voyage hors de France pour l'Angleterre, d'un seul coup, j'ai l'impression que moi, le film qui me plaisait, qui était justement je trouve qu'il y avait une montée en puissance et une explosion rapide, là, d'un seul coup, devient un film, en effet, politique, et c'est compliqué de dire. Je n'ai pas fait ce film en pensant aux migrants, je n'ai pas fait ce film en pensant à la politique. On est quand même en France aujourd'hui, et lorsqu'il a écrit ce film, la situation était la même. C'est là où c'est délicat, je trouve, de faire comme si tout ça n'existait pas.
Hors sol.
Et la fin, par ce voyage hors de nos frontières, dans un pays où tant de migrants veulent aller, qui est l'Angleterre, place ce film, malgré Audiard, dans une situation de film politique. Et les réponses qu'il apporte ne sont pas là.
C'est pas malgré Audiard, parce que on ne peut pas s'exonérer de cette responsabilité-là en disant je fais un film. De toute façon, je fais un film de genre, et quand les Américains le font, on leur dit rien, etc. Non, et justement, la beauté du film de genre, c'est qu'il prend des positions politiques, y compris dans la manière de le filmer, parce que il y a aussi la manière dont est filmée cette explosion de violence à la fin. On est quand même sur lui, peu importe ce qu'il y a à côté. Lui n'y jette pas un regard, Audiard n'y jette pas un regard. Tout ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut filmer. Et moi, si j'ai quelque chose de positif à dire sur le film, c'est que je trouve très beau cet homme qui joue Dipane, qui s'appelle Anthony Tassane, Jésus Tassane, qui arrive dans son visage, et sans doute parce que c'est un homme très doux dans la vraie vie, alors qu'il vient de ce même univers, à faire passer cette douceur et cette rage et cette violence qui est derrière. Là, il y a une beauté au moins dans ce qui se passe sur ce visage. Mais Audiard, le vrai problème, c'est que tout le reste, et je crois que le reste du monde, ne l'intéresse pas. Alors, c'est un choix, c'est son parti pris. Moi, ça ne m'intéresse pas non plus.
C'est un film terriblement ambigu. Pour moi, c'est un film terriblement ambigu. Voilà. Je dois dire que la scène, quand même, dans la cage d'escalier est somptueuse.
Alors, laquelle?
C'est le massacre.
La fin, d'accord.
J'ai pensé à Scorsese, justement, comme quoi on peut faire des films sur la violence en travaillant sur un stéréotype. Et d'un coup, c'est aussi quelque chose d'une dimension politique qui se joue dans le cinéma. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un ratage, pour moi, absolument complet du film. qui me met dans une sorte de colère à cause de ces ambiguïtés permanentes.
Pierre Richèze, on termine là-dessus.
Oui, mais moi, l'ambiguïté n'est pas forcément ne me gêne pas, sauf justement sur la fin. Mais je suis d'accord sur le mot ambigu.
Bon.
Mais je pense que ça ne lui déplairait pas, ce mot.
Bon, écoutez, on lui demandera quand on le croisera, Jacques Audiard. Dipan est sorti depuis mercredi dans les salles.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite et fin à présent de notre trilogie critique sur la trilogie filmique du cinéaste portugais Miguel Gomes avec la sortie du troisième volet de ses Mille et une nuits. Nous avons parlé du volume 1, L'Inquiet, dans la dispute le 23 juin, du volume 2, Le Désolé, le 25 juillet. Nous voici donc avec le volume 3, L'Enchanté, sorti il y a 3 jours sur les écrans français. Le premier volume de ces Mille et une nuits débutait par un prologue, je le rappelle, dans lequel Miguel Gomes s'enfuyait en courant d'un plateau de tournage, laissant son équipe totalement déboussolée et furieuse, rattrapée, ensevelie dans le sable, avec seule la tête sortie. Il va être épaulé par Scheherazade pour essayer de s'en sortir en racontant différentes histoires. Ce qui ouvre les 3 films, je le dis une fois encore, ce sera la dernière a priori, ce sont des cartons qui nous expliquent que le cinéaste n'a pas fait une adaptation des Mille et une nuits, mais s'est inspiré de sa structure et que les histoires qui vont nous être racontées, et dont chacune possède un titre propre, sont inspirées de faits réels survenus entre août 2013 et juillet 2014 au Portugal, un pays qui a été victime, je cite, d'un programme d'austérité imposé par un gouvernement dépourvu de tout sens de justice sociale, fermé les guillemets. Dans ces quelques mois, est-il indiqué, presque tous les Portugais se sont appauvris.
Escuta, ó venturoso rei, fui sabedora de que é triste país entre os países, onde assomavam as ruínas e o povo andava à míngua.
Não é ruim. Dá hoje para ti.
Carro, isso.
Eu sinto-me perseguida com esta história. Eu estava aqui sossegada na minha vida, não meti com ninguém. E estou a ser atacada por causa do mal.
Falta um passo.
Aceitam um chá. Aceitamos tudo. Sou empregada de café de profissão e desempregada de condição.
E eu era pescadora.
Vieram, pois, ao sítio certo.
Doutora, achas isto aqui normal? Acha que isto são condições para tratar os doentes?
Querido, isto não é o Hilton.
Eu sei quem anda a botar o fogo. Hoje à noite arde tudo outra vez.
Bom, houve um que incendiou uma televisão, outros puxaram de faca uns para os outros e andávamos assim. Isto está tudo tolo, está tudo maluco.
Nós curtimos muito o povo português.
They're good people.
É sangue bom.
The Portuguese people are good, but they have debts to pay. We are here to give a helping hand.
Do you think we'll get fired?
Most probably, but who cares anyway?
Yes, they don't know shit. They don't know the Portuguese people. In fact, they don't know what love is.
Mille et une nuits, ce volume 3, L'Enchanté, avec aussi en écho tout au long de l'été la Grèce quand même, qui battait au même cœur, si je puis dire, que les films de Miguel Gomes. Antoine Guillot, alors vous étiez présent lors des 2 disputes précédentes consacrées aux Mille et une nuits. Vous faites la synthèse, le lien, le bout de ficelle.
Écoutez, comme je l'avais dit, il me semble, dans la seconde fois où on en avait parlé, pour moi, il y a une structure qui est très fractale dans ces films, donc on pourrait, le mouvement général de ce film, de l'inquiétude, de la désolation pour aller jusqu'à l'enchantement, se retrouver dans chacun et se retrouve ici, effectivement, puisque vous l'avez dit, Scheherazade au début est assez déprimée, en fait, des histoires qu'elle raconte et de fuir comme Miguel Gomez fuyait lui-même, comme Simão Santrip fuyait lui aussi au début, pas pour les mêmes raisons. Non. Enfin, il y a ce mouvement général de tentation de s'évader, d'arrêter, quoi, de raconter tout ça. et de pouvoir trouver un enchantement là où, où on ne l'attendait pas forcément. Et alors peut-être que cette première partie est un peu longue, un peu décousue et un peu bricolée comme l'ont été aussi d'autres moments. C'est-à-dire que c'est la beauté, moi je trouve aussi de ce projet en général, c'est que il essaye, il va faire des choses, ça passe ou ça casse. Parfois c'est lamentable, parfois c'est miraculeux et parfois c'est des choses aussi scabreuses que comment il s'appelle, Padelman, l'homme, cet homme blond magnifique, ce super héros que tard qui fait des enfants à toutes les femmes, je ne sais plus combien il en compte, 200 ou 2000, et qui ne cesse de poursuivre Sherazade de ses assiduités, le voleur improbable Elvis dans cet Orient reconstitué dans les calanques à Marseille. C'est pas ce qui me plaît le plus, et en même temps, je trouve ça formidable qu'ils se permettent de faire
tout,
ça.
Là, oui.
Et au cœur de ce film, alors que ça en est la fin, c'est cette dernière heure que je trouve mais merveilleuse, bouleversante, sur les pinsonneurs, le chant énivrant des pinsons, qui va filmer une culture populaire complètement inconnue et peu importe, d'une banlieue de Lisbonne, je crois, à côté de l'aéroport, qui a été importée au Portugal par les soldats portugais qui avaient découvert ça en Flandre, qui consiste à capturer des pinsons et à faire des concours de chant. Voilà. Et pendant une heure, on va voir ça. Un pur documentaire, pour le coup, à moins que ce ne soit une complète fiction, puisque le chef des pinsonneurs, le pinsonneur principal, celui qui capture les oiseaux, c'est le même qui jouait Simao Centrip au début, et qui est lui-même raconte un peu une fiction, puisque ces oiseaux, pour certains, ont désappris des chants ancestraux qui ont été notés, parce qu'il y a un système de notation, et on va reconstituer sous forme numérique ces chants pour leur apprendre à chanter et refaire quelque chose. Donc on est dans la fiction, on apprend un rôle au pinson d'une certaine manière, et cette manière de montrer la communauté qui est toujours un peu ce sur quoi se clôt les films, c'était le cas de cet ensemble d'immeubles dans le second volet, donne un espoir énorme, moi je trouve, et montre qu'on peut être enchanté par cette manière à la fois de cultiver la mémoire des chants de la révolution des œillets en 74, de faire corps, de faire groupe, qui moi, voilà, pour moi l'enchantement est là, de cette possibilité encore d'un collectif.
Corinne Rondeau, c'est Mille et une nuits de Miguel Gomes, c'est en l'occurrence le troisième volume qui vient de sortir mercredi.
C'est le volume que je j'aime le moins.
Bon, pas de chance.
Ouais, non, je trouve que vraiment les autres émissions est tout à fait formidable. Vraiment, parce que bon, les trois volets ont vraiment une vraie cohérence qui est la question de la parole. Moi, il me semble, parce que c'est aussi la tradition orale qui se joue jusqu'à ce troisième volet, dont Antoine vient d'évoquer cette séance avec les pinsons. Ils sont tous à côté de boîtes où le pinson est caché. Ils tendent l'oreille à ces boîtes, dont on se demande bien ce qu'il y a dedans. Finalement, il pourrait y avoir un téléphone portable dans lequel il y aurait le chant des oiseaux, puisque c'est aussi le nombre de chants qui vont être faits à la minute. Et ce que je trouve beau, c'est de partir de l'oralité jusqu'à à l'oreille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui de notre temps quand toute la fin est tombée sur nous? C'est-à-dire, c'est la fin d'une certaine culture, puisque le volume 1, c'était quel rapport y a-t-il entre l'invasion, la fin des chantiers navals et la disparition des abeilles. Ça, j'avais trouvé ça absolument somptueux, parce que le film commençait à dire, après la fuite du réalisateur, le film commençait à dire « Je suis en train d'essayer de créer une rencontre d'une chose improbable, qui est cette chose abstraite, et je n'ai jamais été un bon dans l'abstraction », dit-il. Et ça, je trouve absolument formidable, parce que tous les trois volets se fondent sur ce rapport et cette rencontre impossible entre le réel et la fiction. Et quand on est débordé par le réel, parce qu'il est débordé par le réel, parce que le réel est lui-même nous déborde, il choisit donc de mettre la puissance de la fiction en jeu. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas toujours réussi. Et c'est parfois très pénible, il faut le dire. Et par contre, ce qu'il arrive à tenir, c'est cette parole qu'il va faire jouer par Scheherazade une fois que, finalement, comment je peux faire mon film? Puis ce procès au deuxième volet, qui est aussi la parole qui est désavoué, c'est-à-dire la loi ne peut plus rien pour vous, ne peut plus rien pour personne, et c'est encore la question d'une parole qui peut s'énoncer. Et donc là encore, c'est la reprise de la fiction avec ce chien Dixie dont on va voir le spectre, et le volume 3 s'ouvre avec un spectre de Scheherazade qui passe dans le plan avec le grand vizir. Donc en fait, il a des manières de faire passer des choses très discrètes d'un volume à l'autre, mais il fait tenir ce lien pour moi sur la question de la parole. Qu'est-ce qui tient encore de la parole quand le réel, finalement, on ne peut plus rien en dire? Et d'ailleurs, la mélancolie de Scheherazade, puisqu'effectivement, elle renvoie le Bellâtre, ça ce sont des scènes extrêmement drôles, et ce qui reste de Bagdad, des mille et une nuits, c'est grosso modo le soleil de Marseille, il n'y a rien d'autre. Hein. Parce que sinon, tout est à mourir de rire, quand elle lui dit « je vais te faire une danse », le type lui fait une espèce de danse d'aujourd'hui dans les boîtes, habillée en...
Il danse le Mia, quasiment.
Ouais. Voilà, il danse le Mia, habillé en torse nu, enfin bon. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, moi, c'est que j'ai trouvé pénible, finalement, parce qu'il a tiré à la ligne cette mélancolie, c'est-à-dire, il n'y a plus rien. Scheherazade ne peut plus rien vous raconter. Parce que, en fait, c'est repris par cette question du graphisme. Scheherazade se tue. Scheherazade reprit le récit. Et alors, chaque fois, on a ce panneau, enfin, on a une incruste, et puis on a l'histoire des pinsonniers sans arrêt. On aurait effectivement enlevé le graphisme, on aurait eu du pur documentaire. Ce que ça n'est pas. Mais en même temps, le fait de mettre, et moi je n'en pouvais plus, j'avais envie qu'on allume la lumière en disant « arrêtez !» Oui, elle reprend. On a compris, monsieur Miguel Gomez, on a compris que c'était la fin. On ne peut plus rien raconter, il faut laisser les gens se remettre à écouter quelque chose. Parce que le début du volume 1, c'est la fin de la culture, les chantiers navals, et la fin de la nature, la fin des abeilles, la pollinisation, l'enrichissement. Et là, effectivement, c'est comment on peut réactualiser ou réinventer une parole quand on n'a plus rien à dire et que la tradition orale est elle-même arrivée au bout du bout. Et c'est pour reprendre les phrases que disent tous certains acteurs, enfin les personnages du premier volet, vous le prenez, oui je prends tout. Et donc là on se dit, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Eh ben le chant des pinsons. Voilà. Alors j'ai trouvé ça absolument formidable. Mais il y a juste un truc, bref, voilà. Il a tiré à la ligne vraiment pour faire 2h10, parce qu'ils font à peu près tous 2h10. Alors que Dipane fait 1h54, cher Thierry, mais je vous laisse la parole.
Thierry Chaise, donc.
Moi, j'étais hyper déçu par celui-là. J'ai adoré les deux premiers. Je trouvais ça ludique. Et même quand ça ratait, je trouve que ça, il y avait un feu d'artifice, tout ça. J'adore le projet, je trouve ça assez incroyable. Et alors, on parlait de chiffres tout à l'heure. Sorti au cœur de l'été, ça devait être un vrai... Enfin, porté par... Peu de films qui ont été autant portés par la critique. C'est-à-dire que ceux qui n'aimaient pas n'y sont pas allés. Donc là, c'était beaucoup simple, il n'y avait que les pour. On est tombé, mercredi dernier, à 330 entrées. On avait démarré quand même à plus de 1000, et Tabou a réuni 150 000 spectateurs.
Le film précédent, oui.
Donc, je pense qu'il y a eu un délitement, et je trouve dans ce troisième qu'on tire, en permanence à la ligne. C'est-à-dire que c'est la première fois, où les autres fois, il y avait... En effet, tous correspondaient, c'était ludique, on passait une chose à l'autre. Là, j'ai l'impression que Miguel Gomez, metteur en scène, me donne une leçon et m'explique. Le Pinsonneur, c'est un film formidable, mais en soi. Oui. Le message qui passe à travers Le Pinsonneur, j'ai compris très vite. Dans les autres choses, à chaque fois qu'il y avait, hop, on passait à quelque chose, on passait. Là, on s'appesantit, et moi j'ai l'impression qu'on s'appesantit plus pour arriver à 2h10 et pas 1h40. Et que oui... En effet, il se passe, c'est à la fois, on se dit, oui, est-ce un documentaire, c'est une fiction, qu'il y a des moments de grâce, qu'il y a ce côté, eh bien, le Portugal a été assassiné, mais il reste tradition, et l'enchantement revient par cette tradition, ça continuera quoi qu'il arrive. Mais j'ai trouvé ça extrêmement long, extrêmement poseur par moment, tout ce que les deux précédents volets n'étaient pas. Je trouve que, du coup... ça finisse vraiment sur une note... Moi, j'aurais adoré un diptyque, en fait, je crois. Et j'aurais été très content avec un petit supplément. Mais j'ai perdu... alors, j'ai toujours là l'intelligence de cet homme, cette capacité, une fois encore, de raconter à travers toute la thématique une situation d'aujourd'hui, comme peu de gens peuvent le faire, et ça... Mais c'est parce que j'étais très haut, vous voyez, que là, je suis un peu tombé de mon piédestal. Voilà.
Avant d'en dire quelques mots, Antoine Guillot, une réaction par rapport à ces deux visions assez différentes de la vôtre?
Oui, je peux comprendre.
Vous êtes bon.
Ce ressenti, et en même temps, ce n'est pas le mien. C'est-à-dire que j'aurais pu rester encore plus longtemps avec les pinsonneurs. C'est-à-dire que j'ai été réellement enchanté parce que je voyais, j'avais envie de voir ça. J'avais envie que ça continue. J'avais envie de les connaître encore plus. J'ai aimé voir ce texte envahir l'écran une fois que Scheherazade, d'une certaine manière, se soit tu. J'aurais aimé parler mieux le portugais pour pouvoir me passer des sous-titres qui font des choses à lire. En plus, parce que c'était une forme, encore une fois, que je n'avais encore jamais vue. Autant je découvrais cette culture des pinsonneurs, autant la manière de les montrer, pour moi, justement, excédait des choses qu'on avait déjà vues. Et puis, je voudrais aussi parler d'un petit moment dans le film qui s'insère à l'intérieur des pinsonneurs, qui s'appelle Forêt chaude, qui est ce moment de manifestation des policiers à Lisbonne, qui vont se confronter à d'autres policiers, leurs collègues. Ils auraient pu s'échanger leur place complètement pour essayer d'entrer dans le Parlement. C'est déjà en soi des images assez fortes. Et par-dessus ça, il va y avoir une voix off d'une Chinoise qui est peut-être une de celles qu'on a vues dans l'épisode 2 au procès, qui racontait ça, et qui va raconter son histoire avec un de ces policiers qui est en train de manifester. On ne sait pas lequel c'est, mais c'est un de ceux-là, et qui est une manière, encore une fois, parce qu'il y a une force de cette foule comme ça, et qui dit beaucoup de ce qui se passe. Alors, quand il y a des policiers qui se tapent sur d'autres policiers, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce pays, et qui va donner quelque chose de très beau, très intime, de très privé. C'est une des autres articulations du film qui est à l'œuvre aussi dans ces pinsonneurs, qui est un principe même du documentaire. C'est que vous prenez une foule et vous allez prendre des personnes dans la foule dont vous allez nous faire, dont on va connaître plus ou moins les histoires, et l'ensemble du projet là-dessus. On dira aussi qu'il a filmé un pays, il a pris des gens, etc. Et je trouve ce concentré chimique presque de ce qu'est le film à l'intérieur, une petite pépite comme ça qui, moi, m'a beaucoup plu.
Il faut rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que pendant tout le tournage, il y avait cette équipe de journalistes qui était envoyée partout de Portugal, qui travaillait pour Miguel Gomes, c'est pour lui ramener des sujets, donc effectivement, dont il s'est inspiré, alors très lointainement, mais c'est aussi mais sur la question de la parole, vous disiez, Dipane, qu'est-ce que ça raconte, mais on a l'impression que c'est aussi quand même la question de Miguel Gomes. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on raconte dans les journaux? Pas vraiment ce qui se passe. Et la question de la parole, c'était dans le, je sais plus si c'était le 1 ou le 2 avec la Troïka, c'était le 1, hein, l'histoire des hommes qui bandent. Comment les rapports de force par la parole sont une chose, et puis il y avait l'interprète extrêmement, pas fantaisiste, mais qui était extrêmement drôle, qui traduisait très de façon très chantournée, n'est-ce pas, les échanges autour de la table entre les représentants du gouvernement portugais et les représentants de la Troïka. Mais et ça ramène aussi aux animaux, parce qu'on en avait parlé aussi pour les deux précédents volumes, mais c'est le cas évidemment encore, c'est la lecture du cinéma de Miguel Gomes par les animaux, comment on passe du coq au pinson, comment effectivement on suit le petit chien. Et donc oui, la parole des animaux, parce qu'on finit quand même là-dessus, même si c'est très long. qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Les abeilles ont disparu, alors du coup, écoutons les pinsons. Enfin, moi, il y a ce projet d'ensemble qui reste quand même, même s'il peut y avoir déception sur ce troisième volet, qui reste, je sais pas, un projet tout à fait hors norme, ça c'est sûr. Et moi, ce que ça me raconte, au final, c'est quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que les deux premiers, je trouve, donnent plus de matière à penser, de matière à ressentir et de matière... Et alors là, on est vraiment dans du cinéma 100% politique et 100% poétique. Même si les choses sont un peu faciles à dire comme ça fait un peu formule, mais c'est quand même ça aussi, Miguel Gomes. Alors, quand même, Corinne Rondeau, sur le total, sur la trilogie...
Non, évidemment, c'est un ovni. Positif. Donc, c'est un ovni. Je veux dire, il ne faut pas rater les ovnis.
Voilà, enfin, voilà. D'accord. Comme il ne faut pas rater Alexis Gaillerman ou des choses comme ça.
Absolument. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a tant d'intelligence... il y a un moment donné, on se dit, pourquoi est-il allé jusqu'à tirer quelque chose qui devient un système? C'est ça qui est malheureux. Car Forêt chaude, c'est un tout petit moment pour revenir sur les pinsonneurs. Et on ne sait pas pourquoi il y a une interruption pour revenir. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien. Sauf que...
Ma question ne sert à rien.
C'est ça que je voulais dire.
C'est pas forcément une explication
sa question.
Voilà, c'est pour ça que ma question ne voulait pas forcément dire. N'a pas beaucoup de sens. Mais, par ailleurs, comme je suis partie sur cette idée qu'il travaillait sur cette non-rencontre de la... Il est sans illusion. Le réel ne rencontre pas la fiction. Et c'est ça qui est très fort dans son cinéma. Il n'est pas en train de nous dire le réel est plus fort que la fiction pourrait devenir le réel. À aucun moment. Il nous dit à quel moment la puissance de la fiction, quand le réel nous déborde, peut faire quelque chose de... un nouveau type de langage au cinéma. C'est ça. Mais quand justement il travaille sur ce rapport entre l'image et le décrochage de la voix off, qui est déjà au premier, au second, et là au troisième, avec cette foule, alors vous dites, ah, le collectif, les pinsonneurs, un groupe d'hommes. Ah, vous essayez, vous dites, ah, des individus, Scheherazade, un couple, procès, voilà. Et puis, le collectif, vous dites, alors c'est un film, le troisième volet, c'est sur le collectif, quelque chose du peuple qui se réveille. Parce que, franchement, évidemment, au premier volet, on voit qu'il y a des gens qui témoignent, avec une très grande force, c'est pas du micro, on témoigne, il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans cette mise en œuvre et mise en forme de cette pauvreté qui touche les Portugais. Mais après ça, il y a la fiction qui le reprend, et le troisième volet, on se dit où est la pauvreté ? Car il se dit avec quoi je peux faire un film quand je n'ai plus les moyens ? C'est quand même le début du film, quand je n'ai plus les moyens. Alors évidemment, il le fait avec voilà, ce qu'il peut bidouiller jusqu'au bout. Alors, moi je trouve que la pauvreté, c'est qu'il est allé au bout de sa propre pauvreté. Moi, elle m'a paru insupportable. Mais quand j'entends Antoine qui dit « j'ai été enchanté », je me dis « bingo, il est dans le titre ». Voilà, mais bon, c'est pas parce que moi j'aime pas ce troisième volet que le troisième volet est pourri. Enfin,
voilà, pour résumer votre...
Mais moi je trouve qu'il a un fil. Ce qu'il nous raconte, c'est l'usage de la parole. Voilà, et ça pour moi c'est incontournable.
Antoine Guillot.
Non, juste pour...
Faites un peu usage de votre parole avant qu'on passe au troisième film.
Juste pour conclure, maintenant que les trois films sont sortis, pour ceux qui auront hésité aussi à aller le voir, maintenant on a la chance de pouvoir les voir les trois à la suite.
Bon, beaucoup de salles l'avaient fait en fait pendant l'été, j'ai remarqué
un
peu partout.
Oui, mais maintenant ça va pouvoir se faire partout. Et maintenant beaucoup de cinémas le font un peu partout en France, donc c'est une expérience.
Peut-être pas dans la même journée.
Mais c'est une possibilité.
Mais lui voulait pas. Mais
j'ai regretté de le voir morcelé.
Et maintenant, c'est une possibilité de le voir. Il va y avoir des soirées, parfois en présence du réalisateur, d'ailleurs, où vous pourrez voir les trois d'un coup. Et je suis sûr que l'expérience du temps ne sera pas exactement la même.
Hein. Je suis absolument convaincu.
19h, 2h du matin, quelque chose comme ça, ça peut être bien.
Bang.
Ça. Quelques petites interruptions pour la bacalao et quelques boissons avec. Thierry, dernier mot sur Miguel Gomez.
C'est que moi, les deux premiers, j'avais l'impression qu'ils me prenaient par la main, et que là, j'ai l'impression d'être sorti un peu plus bête. Par moments, ça me confrontait à ma propre bêtise.
C'est pas plus mal, parfois, ça fait du bien.
Voilà, et je pense que il met un miroir face à nous, en fait.
Mille et une nuits, volume 3, L'Enchanté de Miguel Gomez, sorti mercredi dernier. Donc maintenant, effectivement, on peut voir, si on ne les a pas vus, volume 1, 2 et 3.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Troisième et dernière partie de cette dernière dispute d'été consacrée ce soir au cinéma en nous intéressant à un film qui a été lui aussi présenté lors du dernier festival de Cannes, hein, comme les deux précédents dont nous avons parlé, en marge, très en marge, dans la section de l'ACID, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Il s'agit du film de Patrick Wang, Les secrets des autres, sorti mercredi dernier, un film adapté d'un roman de Lee Hager Cohen.
I mainly called to tell you to prepare you that Jessica's here. She showed up today.
There he is. Paul, do you remember Jessica?
Wow.
And you were, well, I don't remember how old you must have been last time we were all together. Do you remember from the lake?
Our sister.
Yeah,
from a different mom before Dad knew Mom.
How long is she staying?
Paul.
What?
You know me, I'm not going to stick around if they don't want me to be here.
We'd like you to stay. I'd really like that. And I don't just mean through the pregnancy.
You do not get to make all the decisions for me.
Before I told you I knew something was wrong. And I didn't tell you.
When did you know? You wouldn't even let me hold him.
Last year, a baby died. And nobody even mentions it. And she and John, they're always just like... whispering, and then they're staring, and they're silent, and then it's just like nobody lives on the same goddamn planet.
This is not okay. What are you doing home? You cut school again?
I'm okay.
I'm so sorry you had to see that, Jesse. It's a very unusual time around here.
We are Allez, c'est Corinne Rondeau qui va commencer par parler des secrets des autres. On s'interrogeait quand même sur ce titre français qui est loin du titre original, The Grief of Others, le chagrin des autres.
Ce qui correspond beaucoup plus au film.
C'est comme ça que le roman a été traduit, son titre en France. Donc, du coup, pour la sortie cinéma, on reprend le titre de la traduction du roman. Bref, The Grief of Others.
Vous avez fait le pitch, Arnaud ?
Je ne suis pas sûr.
Non, pas encore.
Je ne suis pas sûr. Vous voulez que je fasse ou...
Ah, vous êtes tellement bon.
Je l'ai pas écrit, ça me prend un temps fou. Hein. Ça me prend un temps fou
alors,
à écrire.
Alors,
les secrets des autres, je lis le dossier de presse, raconte l'histoire d'une famille hantée par un destin tragique. Point, je vais m'arrêter là peut-être.
Ok,
non
d'accord, très bien. Oui.
Si une visite inattendue va à la fois rouvrir des blessures enfouies et offrir une voie de sortie à ce deuil résolu. Mm-hmm. J'aurais pas dit ça, mais c'est ça. Hein.
Oui, on va dire c'est ça. C'est
bon, c'est-à-dire, on a dit tout et rien là.
Alors, on a dit tout et rien, mais c'est un film absolument d'une très grande élégance que j'ai beaucoup aimé. D'abord parce que ça pourrait sombrer dans la nullité, la bêtise et l'hystérie totale. On est au centre d'une famille dont il s'est passé quelque chose. Mais le film se construit étrangement. C'est-à-dire d'abord, c'est une première séquence qui est à la fois muette en vision subjective. Et il y a un filtre rouge qui montre deux visages de femmes et une main. Et ensuite, ça s'éteint. Mais ensuite, on a le titre du film, le générique.
Imagine bien qu'on est caméra subjective dans un lit.
Oui, parce que les gens sont... caméra
se
est...
se penche.
Oui, d'accord.
Et au-dessus de quoi?
Oui, d'accord, mais vous ne savez pas qui est en train de les regarder.
Oui,
donc, on
sûr.
A quand même une sorte d'énigme pour le début de ce film.
Tout à fait.
Et on n'en a pas beaucoup l'occasion. Et puis ensuite, on commence avec une petite fille qui va être au bord d'un fleuve, qui est en train de bricoler un truc avant de tomber à l'eau. Puis là-dessus, bon, les événements s'enchaînent d'une manière assez logique, dirons-nous. Et on comprend assez vite qu'en fait, quelque chose dans la chronologie des événements ne fonctionne pas bien. Jusqu'à effectivement, au milieu film, revenir sur cet écran avec vision rouge. On comprend, puisqu'il est arrivé un certain nombre de choses, à quoi correspond cette vision. Avec une reprise d'une scène qui était beaucoup plus courte avant. Et donc, on a comme ça une mise en abîme de la dimension dramatique de ce que vit la famille, sans jouer la dramatisation par le biais des personnages. Donc, deux enfants d'un couple, et puis l'enfant d'un premier mariage du père, Jess, qui va être un peu notre témoin, qui va être un peu celui qui arrive dans cette famille pour découvrir un peu ce qui s'est passé. Et moi, j'ai trouvé que ce film avait effectivement une sorte de scénario décousu, mais avec une grande qualité, de cette espèce de flottement, parce qu'il vous tient et en même temps il vous lâche, il vous met au cœur de toutes les subjectivités avec un travail, c'est du 16 mm, et en fait il y a aussi des incrustations au Super 8, où en fait on voit des sortes de petits nuages avec des sons aussi d'incrustations, où en fait on a une sorte de subjectivité interne à tous les personnages, en fait on voit que on est dans une maison où la famille est désunie. Et tout le film est une manière de dire, eh bien, quand on est malheureux, on ne peut pas être uni. Et tout le film est en train de dire de quoi retourne, je veux dire, ce problème, ce deuil, cette chose qui est arrivée dans cette famille. Et ce que j'ai aimé j'ai trouvé ça très fort, c'est cette manière de les voir tous en lutte. N'arrivant pas à le dire, voilà. Et avec des fractures dans l'histoire. Pourquoi, par exemple, Tess qui rencontre un jeune garçon dont le père vient de décéder, il y a des dioramas comme ça absolument formidables, on va voir une galeriste, on lui dit mais c'est formidable, et puis le père se retrouve avec cette galeriste, et puis on a un plan comme ça dans le diorama, où elle lui dit, vous voyez, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais il a écrit « Au soleil ». Au solo mio.
Et au pas lieu de au sole mio.
Au sole mio.
C'est pas
au ma solitude.
Au mon soleil, mais,
voilà. Mais au ma
du
solitude.
Du Purcell, quoi,
voilà.
Quasiment.
Ouais. Et donc, évidemment, il y a des échos comme ça, ou des résonances, et le film, peu à peu, se décousu, se recoue jusqu'à cette fin finale. Moi, j'ai pleuré.
Ouais.
Oui, Arnaud, je savais ce que vous diriez. Mais pas encore.
Pas encore, mais que le film fait 1h43 et qu'il m'a plu pendant 1h38. Ah. C'est ça que je vais vous dire.
Moi, j'ai énormément aimé aussi. J'avais beaucoup aimé déjà le premier film, In the Family. Où,
qui sort en DVD, je
voilà,
crois.
Où il était question
chez qui, Malavida ?
Chez ED Distribution.
ED Distribution, ouais,
qui,
pardon.
C'est eux, Malavida, qu'une fois encore, cette société fait un travail de défrichage sur différents auteurs de Bill Plimpton pour l'animation à Patrick Wong. Donc, le premier film est évoqué donc, à la suite de la mort de son compagnon, un homme voulait avoir la garde de leur enfant, et évidemment la famille du compagnon était contre. Autour des non-dits et de la famille, à chaque fois on pourrait dire, ah, c'est un film dossier de l'écran où d'un seul coup on pose les trucs et pendant 1h40 on va poser le pour, le contre. Je trouve qu'il y a quelque chose un travail sur le non-dit qui est absolument magnifique. Le non-dit, des choses que le spectateur va deviner ou pas au fur et à mesure, par la mise en scène, par ce flashback qui est vraiment justement les flashbacks utilisés comme le lieu où le non-dit peut s'exprimer de manière incroyable. Il y a une réalisation que je trouve qui pourrait être à la fois très naïve, c'est surimpression, on se dit c'est bizarre, et qui en même temps nous plonge comme ça à l'intérieur, presque physiquement, à l'intérieur de la douleur que chacun des membres de cette famille a du mal à extérioriser. Alors, les enfants l'extériorisent par l'un et voilà, est devenu obèse, souffre douleur, l'autre fait des fugues et tout ça, mais on sent bien que le nœud, la question est ailleurs, et je trouve que Patrick Wong a une élégance totale pour nous raconter ça, a une pudeur totale pour nous raconter ça, et moi ne m'a jamais forcé la main et les larmes, et moi aussi j'ai pleuré.
C'est bon. Moi qui pleure souvent, j'ai raté quelque
chose. J'aime beaucoup ce cinéaste.
Antoine Guillot, Les secrets des autres, de Patrick Wong.
J'aurais adoré être d'accord avec vous et avoir ressenti les choses de la même manière, parce que Patrick Wong, pour moi, c'est le cinéaste que j'aimerais aimer, mais que je n'aime pas. C'est très étrange. Il a a priori tout pour me plaire, jeune cinéaste indépendant américain, très indépendant, faisant ses films venant du théâtre, faisant ses films avec rien, ne voulant pas plaire à Hollywood en faisant des films formatés qui passeront par la case Sundance pour finir par faire des drames familiaux américains, etc. Donc tout ça très bien, cette manière effectivement de fragmenter la linéarité du récit, de montrer qu'effectivement quand on est enfermé dans un chagrin, on est aussi enfermé dans un temps qui n'évolue plus, avec toujours les mêmes choses qui reviennent de manière plus ou moins longue, etc. Ce que je reproche à ce cher Patrick Wong, et c'était déjà le cas dans In the Family, c'est d'être un peu chichiteux. C'est-à-dire d'utiliser tout un attirail de tics cinématographiques qui viennent sans doute de son admiration pour le cinéma des années 60-70, qui vont du jump cut au fondu enchaîné, qui vont consister à décadrer volontairement quelque chose qui normalement serait très simple pour le rendre volontairement mystérieux et que on ait un peu du mal à comprendre. Il aime beaucoup les fondus au noir aussi, il aime ses surimpressions que moi je trouve complètement ratées, et notamment la dernière dans la cuisine, je la trouve complètement absurde, et je trouve qu'il il oublierait un peu de faire ça pour faire moderne, pour faire cinéaste, pour montrer, regardez comment mon cinéma est différent. Je pense qu'il atteindrait quelque chose de beaucoup plus fort, parce que tout est là pour le faire. Et notamment cette douce étrangeté qu'il y a chez tous ces personnages, alors que c'est une famille complètement banale, complètement normale, mais parce qu'effectivement cette étrangeté est là partout. Alors voilà le propos après, bon, pour ne plus souffrir du deuil, il faut se parler, il faut faire des cérémonies, il faut faire tout ça, c'est de bon aloi, c'est tout à fait sensé. Mais pourquoi le faire de cette manière tellement apparente, c'est-à-dire ça m'évoque certains réalisateurs qui sont des virtuoses et qui montrent comment ils sont virtuoses, mais lui, sa manière de dire, regardez, je fais mon petit film bricolé avec plein d'idées, il l'affiche un peu trop, voilà. Donc je trouve que c'est un cinéaste qui peut devenir intéressant, mais il risque s'il continue comme ça, de se perdre.
Alors, il faut qu'il vous appelle, en tout
cas. Non, alors, le fait est que, alors pour essayer de faire une vague synthèse, mais ce que j'aime dans ce film avec Patrick Wong, c'est qu'il essaye des choses à chaque scène. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, comme disait l'autre.
C'est un peu comme Miguel Gomez.
Comme Miguel Gomez.
Mais c'est voilà,
non,
merci.
C'est pas comme, pas
non,
du
non, 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 mais d'essayer. Essayer. Essayer.
Il essaye formellement. Alors des fois, je suis d'accord avec Antoine Guillaume. Des fois, c'est maniéré au sens péjoratif de ce mot. Et des fois, c'est très très beau, très simple. La première fois qu'on voit la mère, par exemple, c'est effectivement dans le rétroviseur de sa voiture. Elle répond au téléphone. C'est très simple. Mais ça amène à une autre très grande qualité de ce film, c'est l'interprétation. Je trouvais que les acteurs dont je ne connaissais aucun, sont tous absolument formidables de précision, de justesse, notamment les enfants sont quand même épatants, mais enfin je ne vais pas les mettre à part, je trouve qu'il y a une qualité de jeu qui est quand même très rare.
Oui, mais ils ont répété pendant 2 mois, parce que le 16 mm ne vous permet pas de faire...
Alors, ils ont répété 2 mois, c'est côté théâtral, et tourné en 12 jours, j'ai lu, ce qui est quand même stupéfiant, parce que le film est quand même d'une richesse, d'une complexité, d'un nombre de plans, de séquences, enfin très, très, très riche. On n'a pas du tout l'impression que c'est 6 semaines, comme... durée moyenne d'un tournage comme ça pour ce genre de film. Là, 12 jours, ça paraît complètement dingue, mais c'est parce qu'il y a un travail préalable. Et puis après, il y a...
Ça se passe beaucoup dans la même pièce aussi, ça.
Non.
C'est pas vrai. Allez, je rajoute une
c'est dommage.
Il rigole, non, mais il rigole tout seul, en fin de vidéo, c'est bien. Mais alors, avec... Il y a le côté Aung San Suu dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, et on reparlera bientôt. Décalage chronologique, on ne sait pas trop où on est, ce qui se passe, que j'aime aussi beaucoup. Et j'aurais... Il y a presque aussi des moments qui m'ont fait penser à Boyhood, qui reste mon film préféré de 2014, le film de Richard Linklater, sur ce regard sur l'enfance qui est très beau, très ni chichiteux, ni débilisant, et au contraire, voilà, en considérant les enfants comme des personnes, ce que les enfants sont. Voilà, je dirais aussi que cette toute dernière séquence m'a paru tomber effectivement dans le maniérisme, mais pas dans... C'est ce qui m'a empêché de verser ma larme, moi qui aime tant pleurer, mais j'ai pleuré avant dans le film, donc c'est pas grave. Il y a d'autres moments où j'ai pu pleurer, Corinne.
C'est pas grave. Non, c'est le seul moment où ils sont ensemble.
Oui, ça j'avais remarqué.
Voilà. Non, mais c'est idiot.
Ben
parce
non.
que je trouve... Non, c'est idiot. Je veux dire qu'effectivement...
Ils ont chassé le corps intrus.
Il est avec des petites... Il est avec des toutes petites choses. Et ses effets sont des petites choses. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film.
Oui, mais quand c'est trop grand, alors, justement, ça marche moins bien, je trouve.
Oui, mais alors, évidemment, comme vous êtes... Il part d'un roman. Moi, ça m'a donné envie de lire le roman pour savoir comment, scénaristiquement, il était arrivé à tirer. Parce qu'on voit bien qu'il cherche à impressionner la pellicule avec des sensations, des impressions. Il est de... Voilà. Alors, comment, avec une surface, on donne de l'impression? C'est-à-dire, comment il donne 5 personnalités avec de la subjectivité, ce qui est très rare. Alors, il le fait avec une petite chose. Mais quand la subjectivité disparaît et qu'il veut nous faire voir quelque chose d'un passage de l'autre côté, il le fait avec le même type de mécanisme, de même système, c'est-à-dire cette impression où effectivement il y a quelque chose, une petite image qui va venir envahir l'autre image et qui est une manière allégorique, sans aucun problème. Je veux dire, là-dessus, il nous fait pas attention. C'est tout petit et vous savez comment ça va arriver. Il y a aucun problème. Je veux dire, il fait pas d'effet là-dessus, voyez. Et il est pas. Non, il fait pas d'effet. Je veux dire.
On n'est pas d'accord quand on n'a pas vécu ce plan de la même façon. C'est justement, moi, je ne vois qu'un effet. C'est ça qui m'empêche.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ces gens qui, dans leur maison, étaient en permanence déplacés de leur vie. Cette lumière à la fin.
Bah, c'est pas possible, c'est trop là.
Oui,
quand même,
mais
Corinne.
Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ce que je dis?
Non,
ou...
la lumière qui est finalement inonde la maison.
Mais non, mais je veux dire.
C'est pas d'une légèreté folle, vous
Écoutez,
en conviendrez.
Mais chacun aime sa lumière à l'endroit où il la veut.
Bon.
Non, j'ai trouvé que c'était la simplicité, voire cette naïveté, même parfaitement.
Tout petit mot, Antoine Guillaume.
Non, il va encore casser la barre.
Non, il y a Thierry derrière.
Non, au contraire, il y a un plan que j'aime beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles choses très intéressantes dedans, et notamment sur l'utilisation du hors-champ, sur ces fameux dioramas dont vous parliez. On met beaucoup de temps à les découvrir, et c'est très beau de voir pendant longtemps
voir
des gens les décrire et dire toute l'émotion qu'ils ressentent.
C'est gonflé de les montrer après. En
les voyant, et c'est risqué de les montrer après, parce qu'ils sont à la hauteur, ils auraient pu ne pas l'être.
Absolument. Thierry Chaise.
C'est un cinéaste qui a le goût du spectateur, je trouve, et qui va provoquer en lui des choses assez étonnantes. Et lorsqu'après, il confronte finalement ce qu'on a pu imaginer à ce qu'on voit, ça marche. Et je trouve qu'il est joueur. Voilà, c'est un cinéaste joueur et j'aime beaucoup ça.
Les secrets des autres de Patrick Wang est sorti depuis mercredi dernier. ainsi s'achève la dernière dispute d'été 2015, version donc hebdomadaire. Merci à vous Corinne Rondeau, Thierry Chaise, Antoine Guillaume d'y avoir pris part avec moi. La dispute d'été était possible grâce à Céam Boutata, Pascaline Bonnet, Daniel Finot et Antoine Guillaume. Prise de sang assurée ce soir par Élise Le, réalisation Daniel Finot. Et cette fois, on se retrouve lundi soir à 21h pour l'ouverture de la 5e saison de La Dispute. Nous parlerons de spectacles vivants en compagnie de Fabienne Pascaud et Joël Gaillot. Nous reviendrons bien sûr sur le Festival d'Avignon, mais nous parlerons aussi d'un nouveau spectacle à l'affiche. Le spectacle s'appelle Frangin au pluriel. Il est à l'affiche au Lucernaire.